Emmanuel Kant, Prolégomène à toute métaphysique future, deuxième partie. Deuxième partie, comment la physique pure est-elle possible? Chapitre 14. La nature et l'existence des choses, en tant qu'elle est déterminée, suivant des lois universelles. S'il fallait entendre par nature l'existence des choses en elles-mêmes, nous ne pourrions jamais la connaître, ni a priori, ni a posteriori. Ni a priori, car comment voudrions-nous savoir ce qui convient aux choses en elles-mêmes, puisque le fait est impossible par la décomposition de nos notions, propositions analytiques. Par la raison que je ne veux pas savoir ce qui est contenu dans ma notion d'une chose, cela fait partie de son essence logique, mais ce qui, dans la réalité de la chose, convient à cette notion, et par quoi la chose même est déterminée dans son existence en dehors de ma notion. Mon entendement et les conditions sous lesquelles seul il peut lier les déterminations des choses dans leur existence ne prescrit aux choses mêmes aucune règle. Ces règles ne se déterminent pas sur mon entendement. C'est au contraire mon entendement qui doit se régler sur elles. Elles devraient donc m'être données d'abord pour en tirer ces déterminations, et alors elles ne seraient pas connues a priori. Une telle connaissance de la nature en soi est également impossible a posteriori. En effet, si l'expérience doit m'apprendre les lois auxquelles l'existence des choses est soumise, alors ces lois, en tant qu'elles concernent les choses en soi, leur conviennent nécessairement encore, en dehors de mon expérience. Or, l'expérience m'apprend bien ce qui existe et comment il existe, mais jamais qu'ils doivent être nécessairement ainsi et pas autrement. Elle ne peut donc jamais faire connaître la nature des choses en soi. Chapitre 15. Et cependant, nous sommes réellement en possession d'une science naturelle pure, qui présente des lois a priori, et avec toute la nécessité requise pour des propositions apodictiques, lois auxquelles la nature est soumise. Je n'en donnerai ici comme preuve que cette propédictique de la physique, qui sous le titre de physique universelle précède toute autre physique, qui est fondée sur des principes empiriques. On y trouve une mathématique appliquée à des phénomènes et des principes purement discursifs, par notion, qui constituent la partie philosophique de la connaissance pure de la nature. Mais il s'y trouve cependant beaucoup de choses encore, qui n'est pas entièrement pure et indépendant des sources d'expérience, comme la notion du mouvement, de l'impénétrabilité, fondement de la notion empirique de la matière, de l'inertie, etc., qui ne permettent pas de l'appeler tout à fait une physique pure. De plus, elle ne concerne que les objets des sens extérieurs et ne donne ainsi aucun exemple d'une physique universelle dans l'acception stricte du mot, physique qui doit soumettre à des lois universelles la nature en général, qu'il s'agisse par là de l'objet des sens externes ou de l'objet du sens intime, de la physique ou de la psychologie. Or, parmi les principes de cette physique universelle, il en est qui possède réellement l'universalité désirée. Telles sont les propositions que la substance demeure et persiste, que tout ce qui arrive est toujours déterminé antérieurement par une cause suivant des lois constantes, etc. Ces lois physiques sont réellement universelles, qui existent pleinement a priori. Il y a donc en réalité une physique pure. Il s'agit maintenant de savoir comment elle est possible. Chapitre 16. Le mot « nature » prend encore une autre signification, celle qui détermine l'objet, tandis que dans l'acception précédente, il n'indiquait que la légitimité des déterminations de l'existence des choses en général. La nature, matériellement considérée, est donc l'ensemble de tous les objets de l'expérience. Nous n'avons affaire qu'à celle-là, puisque, autrement, des choses qui ne peuvent jamais être des objets d'une expérience, si elles devaient être connues quant à leur nature, exigeraient de nous des notions dont le sens ne pourrait jamais être donné in concreto dans un exemple quelconque d'une expérience possible. Nous sommes donc obligés de nous faire de cet ensemble de simples notions, de la réalité desquelles, c'est-à-dire si elles se rapportent réellement à des objets, nous ne pouvons absolument pas décider. Ce qui ne peut être un objet de l'expérience et dont la connaissance serait hyperphysique n'est point ici notre affaire. Nous n'avons à nous occuper que de la connaissance physique dont la réalité peut être confirmée par l'expérience, quoiqu'elle soit possible a priori et antérieure à toute expérience. Chapitre 17. L'élément formel de la nature, entendu dans cette acception étroite, est donc la légitimité de tous les objets de l'expérience et, en tant qu'elle est connue a priori, sa légitimité nécessaire. Mais nous avons prouvé aussi que les lois de la nature dans les objets, s'ils ne sont pas considérés par rapport à une expérience possible, mais comme des choses en soi, ne peuvent jamais être connues a priori. Nous n'avons donc pas affaire ici aux choses en elles-mêmes, dont les propriétés ne nous occupent pas, mais simplement aux choses comme objet d'une expérience possible et leur ensemble est proprement ce que nous appelons ici nature. Je me demande donc si, quand il s'agit de la possibilité d'une connaissance physique a priori, il vaut mieux poser ainsi la question. Comment est-il possible de connaître la légitimité nécessaire des choses comme objet de l'expérience? Ou de cette façon, comment peut-on connaître a priori, en général, la légitimité nécessaire de l'expérience, même par rapport à tous ces objets? En y regardant d'un peu près, on s'aperçoit que la solution de la question, de quelque manière que cette question soit posée, revient entièrement au même, par rapport à la connaissance naturelle pure, qui constitue proprement le point de la question. Car les lois subjectives, sous lesquelles seule une connaissance expérimentale des choses est possible, valent aussi de ces choses comme objet d'une expérience possible, mais nullement de ces mêmes choses considérées en soi, et dont il ne peut être ici question. Il est complètement indifférent que je dise, sans la loi qui veut que, si un événement est perçu, il soit toujours rapporté à quelque chose qui le précède et qu'il suit d'après une règle universelle, un jugement perceptif ne peut jamais valoir comme expérience. Ou que je dise, tout ce que l'expérience nous dit arriver doit avoir une cause. Il vaut cependant mieux prendre la première formule, car, par le fait que nous pouvons bien avoir a priori et avant tous objets donnés une expérience des conditions sous lesquelles seule une expérience est possible à leur égard, mais jamais une expérience des lois auxquelles les objets peuvent être soumis sans rapport à une expérience possible. Nous ne pouvons étudier la nature des choses, a priori, qu'en recherchant les conditions et les lois universelles, quoique subjectives, sans lesquelles seule une telle connaissance, comme expérience, quant à la simple forme, est possible, et déterminer, en conséquence, la possibilité des choses comme objet de l'expérience. Car si je choisissais la seconde manière de poser la question, et si je cherchais les conditions a priori sous lesquels une nature est possible comme objet de l'expérience, je pourrais facilement tomber dans un malentendu et m'imaginer que j'ai à parler de la nature comme d'une chose en soi, ce qui me porterait à d'éternels stériles efforts pour chercher les lois de choses dont rien ne m'est donné. Nous n'aurons donc affaire ici qu'à l'expérience et aux conditions universelles et données a priori de leurs possibilités, et à déterminer en conséquence la nature comme l'objet total de toute expérience possible. Je présume que l'on comprendra bien que je n'entends pas parler ici des règles pour observer une nature qui est donnée. Elle suppose déjà une expérience. Il ne s'agit donc pas de savoir comment nous pouvons, par l'expérience, apprendre à connaître les lois de la nature, car elles ne seraient pas alors des lois a priori et ne donneraient aucune physique pure, mais bien de savoir comment les conditions a priori de la possibilité de l'expérience sont, en même temps, les sources d'où toutes les lois universelles de la nature doivent être dérivées. Chapitre 18. Nous devons donc remarquer, avant tout, que malgré le caractère empirique de tous les jugements d'expérience, c'est-à-dire quoi qu'ils aient leur fondement dans la perception immédiate des sens, tous les jugements empiriques ne sont cependant pas, réciproquement, des jugements d'expérience, mais qu'en dehors de l'élément empirique, et généralement en dehors de la donnée de l'intuition sensible, il doit y avoir encore des notions particulières qui ont leur origine entièrement a priori dans l'entendement pur, auquel toute perception est soumise et peut ensuite par ce moyen être convertie en une expérience. Des jugements empiriques, s'ils ont une valeur objective, sont des jugements d'expérience. Mais ceux qui n'ont qu'une valeur subjective sont de simples jugements de perception. Ceux-ci n'ont besoin d'aucune notion intellectuelle pure, mais seulement de la liaison logique de la perception en un sujet pensant. Cela, au contraire, demande toujours, indépendamment des représentations de l'intuition sensible, des notions particulières produites originairement dans l'entendement, qui donnent au jugement d'expérience sa valeur objective. Tous nos jugements ne sont d'abord que de simples jugements de perception, valables uniquement pour nous seuls, c'est-à-dire pour notre sujet. Ce n'est qu'ensuite que nous leur donnons un nouveau rapport, un rapport à l'objet, et que nous voulons qu'il soit toujours valable pour nous, et même pour chacun. En effet, si un jugement s'accorde avec un objet, tous les jugements sur cet objet doivent aussi s'accorder entre eux, et alors la valeur objective du jugement d'expérience n'en est que l'universalité nécessaire. Mais réciproquement, si nous trouvons une raison de regarder un jugement comme nécessairement universel, ce qui ne tient jamais à la perception, mais à la notion intellectuelle pure à laquelle est subsumée la perception. Nous devons aussi le réputer objectif, c'est-à-dire qu'il n'exprime pas seulement un rapport de la perception au sujet, mais encore une propriété de l'objet, car il n'y aurait pas de raison pour que des jugements d'autrui dussent nécessairement s'accorder avec le mien, sans l'unité de l'objet auquel ils se rapportent tous, avec lequel ils s'accordent, ce qui fait qu'ils doivent aussi s'accorder tous entre eux. Chapitre 19. La validité objective et l'universalité nécessaire pour chacun sont donc des notions réciproques. Et, quoique nous ne connaissions pas l'objet en soi, lors cependant que nous regardons un jugement comme universellement valable et par conséquent comme nécessaire, nous entendons par là précisément la validité objective. Par ce jugement, nous connaissons l'objet, si inconnu d'ailleurs qu'il puisse être en lui-même. Par la liaison universellement valable et nécessaire des perceptions données, comme c'est le cas de tous les objets des sens. Les jugements d'expérience emprunteront donc leur valeur objective, non pas de la connaissance immédiate de l'objet, laquelle est impossible, mais uniquement de la condition de la valeur universelle des jugements empiriques, valeur qui, comme on l'a déjà dit, ne repose jamais sur les conditions empiriques, sur des conditions sensibles en général, mais sur une notion intellectuelle pure. L'objet reste donc toujours inconnu en soi, mais si la liaison des représentations qui sont données par l'objet à notre sensibilité reçoit une valeur universelle par la notion intellectuelle, l'objet se trouve déterminé par ce rapport et le jugement est objectif. C'est ce que nous allons expliquer. Qu'une chambre soit chaude, que le sucre soit doux, l'absinthe amère, ce sont là des jugements d'une valeur purement subjective. Note. Je reconnais volontiers que ces exemples ne sont pas des jugements perceptifs qui puissent jamais être des jugements d'expérience, même en y ajoutant une notion intellectuelle, parce qu'ils se rapportent uniquement à la sensation que chacun connaît d'une manière purement subjective et qu'ils ne peuvent par conséquent jamais être objectifs. Je voulais seulement donner un exemple du jugement d'une valeur purement subjective et qui ne renferme aucune raison d'une valeur nécessairement universelle et d'un rapport à l'objet. On verra dans la note suivante l'exemple des jugements de perception qui sont des jugements d'expérience par l'addition d'une notion intellectuelle. Fin de la note. Reprise du texte. Je ne demande pas de sentir toujours ainsi ou que chacun sente comme je dois sentir. Ces jugements n'expriment qu'un rapport de deux sensations à un même sujet, moi-même, et moi seulement dans mon état actuel de perception, et ne valent par conséquent pas relativement à l'objet. Je les appelle donc des jugements perceptifs. Il en est tout autrement du jugement expérimental. Ce que l'expérience m'apprend dans certaines circonstances, elle doit me l'apprendre toujours et à chacun, et sa valeur ne se borne pas au sujet ou à son état du moment. J'énonce donc tous ces jugements comme objectivement valables, lors, par exemple, que je dis « l'air est élastique ». Ce jugement n'est immédiatement qu'un jugement de perception. Je rapporte deux sensations, l'une à l'autre dans mes sens. Pour que je puisse l'appeler un jugement d'expérience, il faut que cette liaison soit soumise à une condition qui la rende universellement valable. Il faut donc que je sois toujours, et que chacun soit comme moi, dans la nécessité de faire cette liaison dans les mêmes circonstances. Chapitre 20. Nous devrons donc décomposer une expérience en général pour voir ce qui est contenu dans ce produit de l'entendement et de quelle manière le jugement expérimental est lui-même possible. Il a pour base l'intuition, dont j'ai conscience, c'est-à-dire une perception qui n'appartient qu'au sens. Il faut en second lieu le jugement, qui est l'affaire propre de l'entendement. Ce jugement peut être de deux sortes, suivant que je compare simplement les perceptions et que je les réduis à une conscience unique de mon état, ou qu'au contraire, je les unis en une conscience en général. Le premier de ces jugements n'est qu'un jugement perceptif et n'a qu'une valeur objective. C'est une simple liaison des perceptions dans mon état interne, sans rapport à l'objet. Il ne suffit donc pas pour qu'il y ait expérience, comme on se le figure ordinairement, qu'il y ait liaison en une seule conscience par le moyen du jugement. il n'y aurait là ni universalité de valeur, ni nécessité du jugement. Seule condition cependant de valeur objective et d'expérience. Pour qu'il y ait expérience par perception, il faut encore un jugement tout différent de celui-là. L'intuition donnée doit être subsumée à une notion qui détermine la forme du jugement général par rapport à l'intuition, qui relie la conscience empirique de l'intuition en une seule conscience en général et donne ainsi aux jugements empiriques une valeur universelle. Cette notion est une notion intellectuelle pure, a priori, propre seulement à déterminer la manière dont une intuition peut servir au jugement. Soit donc la notion de cause. Elle détermine l'intuition qui lui est subsumée, par exemple celle de l'air, par rapport à ce jugement en général, que la notion d'air, en ce qui regarde la dilatation, dans le rapport d'antécédent à conséquent, a son usage dans le jugement hypothétique. La notion de cause est donc une notion intellectuelle, entièrement différente de toute perception possible, et qui ne sert qu'à déterminer la représentation à elle soumise, par rapport au jugement en général, par conséquent, à rendre possible un jugement d'une valeur universelle. Il faut donc, pour qu'il puisse y avoir jugement de l'expérience par un jugement de perception, que la perception soit subsumée à une notion intellectuelle. Par exemple, l'air est soumis à la notion de cause, notion qui détermine comme hypothétique le jugement sur l'air par rapport à l'expansion. Note. Pour donner un exemple plus facile à comprendre, je prends le suivant. Si le soleil donne sur une pierre, il l'échauffe. Ce jugement est purement perceptif et ne contient pas de nécessité, quel que soit le nombre de fois que moi ou d'autres en ayons fait l'expérience. Seulement les perceptions sont hautement liées. Mais si je dis « le soleil échauffe la pierre », la notion intellectuelle de la cause s'ajoute à la perception. Elle lie nécessairement à la notion de l'apparition du soleil, celle de la chaleur. Ce qui rend le jugement synthétique nécessairement universel, par conséquent objectif, et le fait passer de l'état perceptif à l'état expérimental. Fin de la note, reprise du texte. L'air est soumis à la notion de cause, notion qui détermine comme hypothétique le jugement sur l'air par rapport à l'expansion. Et alors cette expansion n'est pas représentée comme appartenant simplement à ma perception de l'air dans mon état, ou dans plusieurs de mes états, ou dans l'état de la perception des autres, mais comme y appartenant nécessairement. Et ce jugement, l'air est élastique, devient d'une valeur universelle et un jugement expérimental par le fait que certains jugements précèdent qui subsume l'intuition de l'air à la notion de cause et d'effet, et détermine ainsi les perceptions, non pas purement entre elles dans mon sujet, mais par rapport à la forme du jugement général, ici la forme hypothétique, et donne ainsi au jugement empirique une valeur universelle. Si l'on décompose tous les jugements synthétiques, en tant qu'ils valent objectivement, on trouve qu'ils ne se composent jamais de simples intuitions qui aient été liées, comme on le croit communément, par simple comparaison en un jugement, mais qu'il serait impossible, si une notion intellectuelle pure ne venait s'ajouter au concept tiré de l'intuition à laquelle ces concepts sont subsumés, et unis, enfin, en un jugement objectivement valable. Les jugements même de la mathématique pure, dans leurs plus simples axiomes, ne sont pas exempts de cette condition. Le principe « la ligne droite est la plus courte entre deux points » suppose que la ligne est subsumée à la notion de grandeur, notion qui n'est certainement pas une simple intuition, mais qui n'a son siège que dans l'entendement, il sert à déterminer l'intuition de la ligne par rapport aux jugements qui peuvent en être portés relativement à sa quantité, c'est-à-dire à leur pluralité. Puisqu'il est entendu par ces jugements que plusieurs choses de même espèce sont contenues dans une intuition donnée. Note. Je préférerais cette dénomination de pluralité à celle de particulariat qu'on leur donne en logique. Cette dernière expression contient déjà la pensée qu'ils ne sont pas universels. Mais si je pars de l'unité dans les jugements singuliers et que je m'élève à la totalité, je ne puis pas encore introduire un rapport à la totalité. Je pense seulement la multiplicité sans totalité, non son exclusion. Exclusion nécessaire cependant lorsque les moments logiques doivent être soumis aux notions intellectuelles pures. Mais on peut dans l'usage logique s'en tenir à la pratique ordinaire. Fin de la note, reprise du texte. Chapitre 21. Pour exposer la possibilité de l'expérience, en tant qu'elle se fonde a priori sur des notions intellectuelles pures, il faut donc avant tout représenter dans une table complète ce qui fait partie du jugement en général et les divers moments de l'entendement en matière de notions de ce genre. Car les notions intellectuelles pures, n'étant que des concepts d'intuition en général, en tant qu'ils sont déterminés en eux-mêmes par rapport à l'un ou à l'autre de ces moments, pour juger en conséquence, d'une manière nécessaire et universellement valable, leur sont tout à fait parallèles. Par là se trouvent aussi déterminés avec une entière précision les principes a priori de la possibilité de toute expérience comme connaissance empirique d'une valeur universelle. Car ils sont tout simplement des propositions qui subsument toute perception, suivant certaines conditions universelles de l'intuition, à ces notions intellectuelles pures. Donc, suit une table logique des jugements. Premièrement, quant à la quantité. Universel, particulier, singulier. Deuxièmement, quant à la qualité. Affirmatif, négatif, limitatif. Troisièmement, quant à la relation. Catégorique, hypothétique, disjonctif. Quatrièmement, quant à la modalité. Problématique, assertorique, apodictique. Table transcendantale des notions intellectuelles. Premièrement, quant à la quantité, unité, la mesure, multiplicité, la grandeur, totalité, le tout. Deuxièmement, quant à la qualité, réalité, négation, limitation. Troisièmement, quant à la relation, substance, cause, communauté. Quatrièmement, quant à la modalité, possibilité, existence, nécessité. Table psychologique pure de tous les principes de la physique. Premièrement, axiome de l'intuition. Deuxièmement, anticipation de la perception. Troisièmement, analogie de l'expérience. Quatrièmement, postulat de la pensée empirique en général. Chapitre 22. Pour embrasser en une seule notion tout ce qui a été dit ci-dessus, Le lecteur doit se rappeler d'abord qu'il ne s'agit pas ici de l'origine de l'expérience, mais de ce qu'elle renferme. L'origine est l'affaire de la psychologie. Elle n'y pourrait même être jamais développée convenablement sans le travail qui est de ressort de la critique de la connaissance et en particulier de l'entendement. L'expérience résulte d'intuitions qui appartiennent à la sensibilité et de jugements qui sont l'affaire de l'entendement seul. Mais les jugements que l'entendement ne tire que de représentations sensibles ne sont pas encore, tant s'en faut, des jugements d'expérience. Car dans un cas, le jugement n'unirait que les perceptions telles qu'elles sont données dans l'intuition sensible, mais dans le dernier cas, les jugements doivent dire ce que contient une expérience en général et par conséquent pas ce que renferme la simple perception. Le jugement expérimental doit donc ajouter à l'intuition sensible et à sa liaison logique, après qu'elle a été généralisée par voie de comparaison, dans un jugement, quelque chose que détermine le jugement synthétique comme nécessaire et par conséquent comme d'une valeur universelle, ce qui ne peut être que la notion qui, à l'exclusion d'une autre, représente l'intuition comme déterminée en soi par rapport à une forme de jugement. Intuition, qui est un concept de cette unité synthétique des intuitions, qui ne peut être représentée que par une fonction logique donnée des jugements. Chapitre 23. En somme, l'affaire des sens est de percevoir, celle de l'entendement, de penser. Or, penser, c'est réunir des représentations en une seule conscience. Cette réunion n'a lieu que par rapport au sujet et n'est ainsi que contingente et subjective. Ou bien, elle a lieu absolument et porte le caractère de la nécessité ou de l'objectivité. La liaison des représentations en une seule conscience est le jugement. Penser, c'est donc juger ou rapporter des représentations à des jugements en général. Des jugements sont donc ou simplement subjectifs, quand des représentations sont seulement rapportées à une conscience unique dans un sujet, ou ils sont objectifs, quand elles sont réunies en une conscience, en général, c'est-à-dire quand elles y sont nécessaires. Les moments logiques de tous les jugements sont donc autant de manières possibles de lier des représentations en une conscience. Et comme ils servent en tant que notions, ils sont donc les notions de l'union nécessaire des représentations en une seule conscience, par conséquent, des principes de jugement d'une valeur objective. Cette liaison en une seule conscience est, ou analytique par identité, ou synthétique par la composition et l'addition de différentes représentations entre elles. Une expérience consiste dans la liaison synthétique des phénomènes, des perceptions, en une conscience, en tant que cette liaison est nécessaire. Des notions intellectuelles pures sont donc celles auxquelles doivent être subsumées toutes les représentations avant de pouvoir servir à des jugements d'expérience, dans lesquels l'unité synthétique des perceptions est représentée comme nécessairement et universellement valable. Note. Mais comment cette proposition, que des jugements d'expérience doivent contenir une nécessité dans la synthèse des perceptions, s'accorde-t-elle avec ma proposition ci-devant signalée à plusieurs reprises qu'une expérience, comme connaissance a posteriori, ne peut donner que des jugements contingents. Quand je dis « une expérience m'apprend quelque chose », je ne pense qu'à la perception qui est en elle. Une chaleur suit toujours l'action du soleil sur une pierre, et ainsi la proposition est expérimentale en tant qu'elle est toujours contingente. À la vérité, le jugement expérimental, grâce à la notion de cause, suppose que cette chaleur suit nécessairement l'action du soleil. mais je ne l'apprends pas par l'expérience, qui n'est au contraire produite que par cette addition de la notion intellectuelle de cause à la perception. Pour savoir comment se fait cette addition, il faut consulter la critique, section du jugement transcendantal, page 180. Fin de la note.